Allô, allô, ici Ciné Herri.
En 1943, Fritz Lang, le scénariste et metteur en scène allemand d'origine autrichienne qui s'est réfugié aux États-Unis en 1934, réalise un film en noir et blanc, Hagmen also die, Les bourreaux meurent aussi, son dernier film de facture expressionniste. Dès les années 20, il avait su s'intégrer au courant expressionniste en tournant Dr. Mabuse, Der Spieler, Dr. Mabuse, le joueur. Une œuvre visionnaire qui présentait en 1922 une Allemagne livrée aux maléfices et vouée à la décomposition sociopolitique. Puis il avait connu un grand succès l'année suivante avec les Nibelungen, un film en deux parties qui s'inspirait des légendes allemandes et relevait du fantastique. En 1927, ce fut Metropolis, une fresque fantastique et baroque qui dépeignait l'enfer du capitalisme et dénonçait l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais politiquement ambigu, cet opus niait la lutte des classes en appelant à la réconciliation entre maîtres et esclaves. Elle plut à ce titre aux dignitaires nazis, et tout particulièrement à Hitler et Goebbels, qui voulurent faire de lui le réalisateur officiel du nazisme, ce à quoi il se refusa non sans difficulté. Avant son départ pour l'Amérique, Fritz Lang tournera encore plusieurs films. Les Espions, en 1928, La femme sur la lune, en 1929, et l'inoubliable M. le maudit, en 1931. Enfin, il achèvera ce premier cycle de création par la réalisation de Das Testament des Dr. Mabuse, le testament du Dr. Mabuse, en 1933. C'est dire que Les bourreaux meurent aussi se présente comme l'œuvre d'un cinéaste accompli et dont le talent est déjà mondialement reconnu. Construit sur l'unique scénario que Bertolt Brecht écrivit pour Hollywood, ce film retrace, non sans prendre des libertés avec l'histoire, l'assassinat du dirigeant nazi Reinhard Heydrich au cours de l'opération Anthropoïde. Le 27 mai 1942, alors que la Tchécoslovaquie est occupée par les nazis, le chirurgien František Svoboda, un patronyme qui signifie « liberté » en tchèque, assassine dans les rues de Prague le Reich Protector Reinhard Heydrich, celui qui a mis en œuvre la solution finale en présidant le 20 janvier 1942 la conférence de Wannsee, qui devait mobiliser toute l'administration allemande afin d'organiser l'extermination de masse. En effet, du château de Drazin, qui domine Prague, ce dirigeant nazi régnait implacablement sur le pays et la terreur qu'il infligea lui valut d'être surnommé le bourreau. Son action perpétrée, František Svoboda, réussit à échapper aux nazis, grâce à une jeune femme, Masha Novotny, qui leur indique délibérément une fausse direction avant de rentrer chez elle. Mais traqué et ne sachant où se cacher, Svoboda sonne finalement chez elle, mettant toute sa famille en danger. Il se présente alors sous l'identité d'un certain Karel Vanek, architecte de son état. Ignorant tout, mais devinant presque tout, la famille Novotny l'accueille et lui offre de rester passer la nuit chez elle pour échapper au couvre-feu. Cependant, le chef de la Gestapo, Kurt Haas, ordonne des représailles immédiates pour sanctionner l'insuffisante collaboration de la population. Après une courte enquête, la Gestapo arrête finalement le père de Masha, le professeur Stefan Novotny, ce qui permet à Svoboda de passer entre les mailles du filet. Un communiqué est diffusé dans la ville, précisant que des otages seront fusillés tous les jours, tant que le meurtrier de Heydrich ne sera pas appréhendé. Svoboda se lamente alors auprès d'un partisan. Et le bain de sang va commencer, ils ont déjà pris 400 otages. Il envisage par conséquent de se rendre, puis de livrer des aveux complets en fournissant la preuve suprême, le pistolet dont il s'est servi pour tuer Heydrich. Il se veut toutefois rassurant. La résistance n'a rien à craindre de lui, car, ajoute-t-il, même sous la torture, je ne dirai rien. Ils n'auront que mon cadavre. Le partisan lui réplique catégoriquement. Vous n'avez pas le droit de vous rendre. 400 vies humaines. Que sont 400 vies humaines? Cette guerre en met en jeu des millions. L'exécution de Heydrich n'est qu'une bataille décisive dans cette guerre. Macha, qui lui a sauvé la vie dans un premier temps, envisage ensuite de le dénoncer à la Gestapo, car elle lui reproche l'arrestation de son père. Dans la rue, elle se trouve néanmoins très violemment prise à partie et sauvagement frappée par la foule. La population ne voit en elle qu'une traître et l'apostrophe donc rudement. « Qu'est-ce que tu fricotes avec la Gestapo? Qui veux-tu dénoncer ?» Dans le même temps, le réseau de résistance, auquel appartient Svoboda, est infiltré par un riche brasseur, Émile Zaka. Cependant, les partisans réussissent à faire passer celui-ci pour un agent double. Ils parviennent ainsi à lui imputer l'assassinat qu'il n'a bien sûr pas commis. Lui, le traître, qui s'est au contraire employé à démasquer le véritable assassin pour mieux complaire aux occupants nazis. Ces derniers, induits en erreur par le réseau de résistance et de nombreux Pragois, l'arrêtent, croyant avoir démasqué le vrai coupable. Ainsi, bien qu'un grand nombre d'otages ait déjà été abattu, son arrestation évite de nouvelles exécutions. Dans ce film, il n'existe aucun jeu trouble sur les identités. Au contraire, Fritz Lang a inversé totalement la donne. La partie est rationnelle, calculée et orchestrée de main de maître par Svoboda et son réseau, qui bénéficie du soutien de la population. On assiste donc à un jeu clair et net, livré sur des identités troubles, réversibles, fugaces, voire évanescentes. Ce qui illustre très bien l'échange entre Anna et Svoboda, lorsque meurt le chef de la résistance. Peut-on dire son véritable nom maintenant? Non. Mais son nom ne sera pas oublié. Un jour viendra où les écoliers l'honoreront. En fait, sur le plan historique, il convient de préciser que Reinhard Heydrich a été abattu par 3 résistants tchécoslovaques, parachutés par les Britanniques. En réaction, les nazis massacrèrent la population de Lidice et détruisirent ce village jusqu'à la dernière pierre. Ce tragique événement suscita une très vive émotion aux États-Unis, au point que le film de Douglas Sirk, Hitler's Madman, et celui de Humphrey Jennings, The Silent Village, l'évoquent tous deux. Pourtant, Brecht et Lang l'ont passé sous silence, à l'instar de la trajectoire politico-criminelle de Heydrich qu'ils ont à peine esquissée. Comme ils ne mentionnent pas davantage le blocage de l'armée allemande sur le front russe, ni l'entrée en guerre des États-Unis après l'attaque de Pearl Harbor. À l'évidence, les deux auteurs ont pris le parti de se centrer exclusivement sur la résistance tchécoslovaque, sans même chercher à contextualiser son combat. À la différence de To Be or Not To Be, réalisé l'année précédente également à Hollywood par son compatriote Ernst Lubitsch, Fritz Lang a composé une œuvre inégale, dépourvue d'humour et qui ignore toute distanciation. Ceci s'avère d'autant plus étonnant que Brecht, théoricien de cette dernière, a signé le scénario. Sans doute faut-il voir là une volonté résolue de magnifier la réalité historique. Cependant, en tournant un film patriotique et didactique à la gloire de la résistance tchécoslovaque, ce sont en fait toutes les résistances à la barbarie nazie qui se trouvent ainsi sacralisées. On a donc vraiment peine à croire aujourd'hui que ce film ait pu, dans les années qui suivirent, être inscrit sur une liste noire, parce que ses dialogues se seraient livrés à une apologie camouflée du mensonge et du communisme. Finalement, avec cette liste noire, nous passons de la Deuxième Guerre mondiale à la guerre froide. En somme, d'une guerre à l'autre.